Bénédiction sur l'étude de la Torah. Birkot à Torah. Chers amis, Hashem Alechem Tihyu Leorechem Tovim Meshanim Ne'amim. Tous les matins, nous récitons les bénédictions sur l'étude. Avant de se mettre à étudier, nous avons l'obligation de réciter ces bénédictions-là. Elles sont extrêmement importantes et il faut les réciter avec une grande concentration et une extrême attention. La Gemara demande: pourquoi les enfants des sages ne sont-ils pas érudits comme leurs pères? Ravina dit que les pères ne récitent pas les bénédictions sur l'étude avant de s'y adonner, comme le rapporte Rabbi Houda au nom de Rav. Il est dit: quel est l'homme sage pour le comprendre? Et à qui la bouche de l'Éternel a-t-elle révélé pour qu'il le communique? Il s'agit ici de la raison de la destruction du deuxième temple, la dévastation du pays et l'exil qui en a découlé. Cette question a été posée aux sages, aux prophètes, aux anges, qui n'ont su y répondre. Kadosh Baruch Hu y répond lui-même. Pourquoi ce pays est-il ruiné et dévasté comme le désert? L'Éternel Hachem dit: c'est parce qu'ils ont abandonné la loi que je leur avais proposée, parce qu'ils n'ont pas écouté mes ordres et qu'ils ne les ont pas suivis. Ils n'ont pas suivi mes ordres et ils ne les ont pas écoutés. A priori, c'est une répétition. Rabbi Houda dit au nom de Rav: ils n'ont pas fait la bénédiction qui précède l'étude. S'il faut comprendre de ce verset qu'ils ont abandonné l'étude, alors pourquoi cette question est-elle restée sans réponse? Il paraît évident, a priori, qu'ils étudiaient et s'adonnaient à l'étude, à la Torah, mais ils ne le faisaient pas de manière pure. Ils ne se donnaient pas la peine de faire les bénédictions. Pour eux, la Torah n'avait pas suffisamment d'importance pour qu'ils récitent les bénédictions avant d'étudier. Ça, c'est la Gemara dans les Darim, page 81a, voir le Ran au nom de Rabbeinu Yonah. Le Bah, sur Shulchan Aruch, Siman Memzaïn, s'étonne de ce châtiment terrible, d'une ampleur colossale pour une faute relativement mineure. Il répond à cette question par un développement fondamental du sens et de l'importance de l'étude. Il apparaît que la volonté première d'Akadosh Baruch Hu est que nous soyons investis dans l'étude afin que se renforce notre âme de l'énergie puissante et de sa sainteté puisée à la source et à la racine de la Torah. C'est pour cela que le Créateur a offert sa Torah de vérité en legs à Israël pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Notre âme et notre corps doivent se lier et s'unir par notre étude aux 248 mitzvot positives et aux 365 mitzvot négatives afin de former et d'établir le trône de gloire et sa sainte demeure, l'endroit de la résidence. La Shekhina résidera alors en nous réellement. La terre deviendra le lieu tangible de cette résidence. Elle éclaire et rayonne de sainteté. Le monde physique se rattache au monde spirituel et à la cour céleste. Le Beth Amikdash terrestre s'unit au Beth Amikdash du ciel. C'est l'unité parfaite entre les mondes, celui d'en haut et celui d'en bas. En négligeant les bénédictions, ces sages ont limité leur étude à une activité matérielle pour les besoins de la vie physique, pour savoir appliquer les lois dans les différentes activités de ce monde, ou pour montrer leur savoir. Ils n'avaient pas pour intention de faire résider la présence divine dans ce bas monde. Ce faisant, ils ont dénaturé la Torah, ils l'ont vidée de son contenu véritable. La conséquence de ces négligences a été que la Shekhina a quitté ce monde et Israël a été livré à la fatalité et aux aléas de l'histoire. La destinée d'Israël n'est plus dépendante de la volonté divine et de sa sainteté. Son destin et sa fortune sont devenus identiques à celles des nations. On s'est détaché de la présence et de la destinée particulière, ce que les Mekoubalim appellent le Yosher, un Agat à Yosher, la Ashgacha pratique de chaque détail, et nous sommes tombés dans un Agat à Igulim. C'est la destinée globale du monde. En conclusion de ce développement, le Bayit Hadash, le Bah, explique le concept même des bénédictions, le désir intense de gravir les degrés, d'amplifier l'énergie spirituelle de sa Neshama en se ralliant à la quintessence de la sainteté de la Torah. Il convient donc de réciter ces bénédictions à haute voix, en exprimant la joie et le plaisir immense d'avoir été choisi pour consacrer le service divin. Louez l'Éternel pour sa bienveillance. Il nous a gratifié de Keli Hemda, un trésor convoité. Le Hafez Haïm dit que, de la même manière que le Sofer, quand il écrit un Sefer Torah, il doit déclarer avant d'écrire qu'il écrit pour la sanctification du nom. C'est écrire les Kadesh et Hashem, les Kadesh et Aktiva. Ce n'est qu'à cette condition que le parchemin devient un objet saint, que l'écriture sanctifie le parchemin. De même, celui qui s'apprête à étudier fait cette déclaration. Il doit faire cette déclaration quand il récite les Birkot HaTorah. Comme le scribe, comme le sofer qui sanctifie le parchemin et son écriture, la sainteté qui habille les lettres de la Torah rayonne et vient alors se loger en lui. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Le Zohar dit, toute la Torah est impénétrable et mystérieuse. Les parties qui en sont dévoilées ne sont que le vêtement qui l'habille. Elles en sont le corps, mais les secrets en sont l'âme et l'intériorité. Car elle n'est que le nom saint de HaKadosh Baruch Hu qui est élevé. Lui, il est très élevé. Celui qui s'y adonne s'occupe du nom saint d'Hachem. De même, il est dit, celui qui s'y adonne est saisi par le saint béni soit-il. Donc, il y a deux éléments fondamentaux. La Torah que nous possédons, elle est habillée dans des inanimes qui sont, dans des sujets qui sont matérialisés. Nous parlons de tzitzit, nous parlons de tfilin, nous parlons de shrita, nous parlons de mezouza. C'est l'application matérielle de la Torah. Mais chacun de ces sujets, quand nous l'étudions, quand nous y adonnons, est attaché à des lumières totalement immatérielles, qui sont les lettres du nom de Dieu. Nous devons donc aspirer nous-mêmes à nous détacher de la matérialité et à atteindre les sommets les plus hauts de la spiritualité. Et de plus, nous devons avoir l'intention de faire descendre les lumières du haut vers la matérialité du bas. Ça, c'est le sens total et réel de l'étude de la Torah. Quand nous faisons les brachot, que disons-nous? Nous disons Baruch Ata Hashem, béni, sois béni, source de bénédiction. Tu es toi, Éternel, source de bénédiction, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifié à cher qui déchet à nous bémitzvotab, qui nous a sanctifié par ses commandements, et qui nous a ordonné sur les paroles de la Torah. Nous a sanctifié par ses commandements. La notion de ce terme, sanctifié, c'est ce que nous venons de dire, c'est le détachement, la sanctification, c'est-à-dire le détachement total de la matérialité. HaKadosh Baruch Hu est saint, nous disons HaKadosh Veshimcha Kadosh, tu es saint et ton nom est saint, c'est-à-dire qu'il est immatériel, il est insondable, il est au-dessus de la matérialité. Et nous devons, nous, aspirer à lui ressembler, à nous détacher de la matérialité. Grâce à l'accomplissement des mitzvot, nous nous détachons de la matérialité. Nous attachons à la spiritualité. Et nous disons en Vetzivanu, et qui nous a ordonné, Al Divre Torah, sur les paroles de la Torah. Il y a une autre version, dans la Gemara, la Asog Be Divre Torah, qui nous a prescrit de nous occuper des paroles de la Torah. Le mot la Asog sous-entend le labeur déployé, l'effort que nous devons mettre pour étudier dans l'étude. Ce qu'on appelle Amal la Torah. Le Rama Mipano dit que le terme, la bracha, al divrei Torah, a une dimension beaucoup plus haute que la asok be divrei Torah. Comme ça, le Rama Mipano dit, parce que quand nous disons la asok be divrei Torah, c'est relativement réducteur. Ça réduit la Torah à une activité physique. Alors que quand nous disons sur les paroles de la Torah, la notion de parole est quelque chose de totalement détaché de la matérialité. Il s'agit de la spiritualité contenue dans les lettres qui fait que lorsque nous prononçons les lettres et les mots de la Torah, nous détachons, nous faisons apparaître la lumière qui est contenue dans ces lettres. Comme dit le Chassid Lutzato dans son livre Derech Etz Haim, que chaque lettre de Torah est une vraie lumière. Chaque lettre, et ceci n'est pas à prendre au sens figuré, ceci est à prendre au sens littéral. Il dit, d'ailleurs, c'est pour cette raison que le Sefer Torah qui contient des centaines, des milliers de lettres, que s'il y a une lettre qui est coupée, qui est mal écrite, tout le Sefer Torah sera invalide, il sera pas soul. Parce que c'est un ensemble global de lumière qui éclaire celui qui va s'y adonner. Et si une lettre est incorrecte, alors le système de lumière n'éclaire pas. Le système est manquant. Comme ça, il dit le Chassid Lutzato dans son livre. Puis nous disons, Ve'arevna Hashem Eloheinu et divrei Torah trabefinu. Et rend agréable et douce de grâce éternelle notre Dieu les paroles de ta Torah dans notre bouche. Il y a ici une discussion, est-ce que cette bracha-là est la continuité de la première, ou bien c'est une bracha séparée. Dans la halakha, il en ressort que c'est une bracha séparée. Bon, revenons au sens de cette bracha. Ve'arevna, rend agréable et douce dans notre bouche. On aurait pu dire, a priori il est étonnant, qu'ici on ne demande pas l'intelligence, on ne demande pas la compréhension, on ne demande pas le savoir. On demande que la Torah que nous étudions soit agréable à notre bouche. Et sur cela, le Tana de Biliaou rapporte que si les Chachamim sont au Bet HaMidrash et étudient et que les paroles de Torah leur sont agréables, alors HaKadosh Baruch Hu les prend en pitié et leur donne le savoir, l'intelligence et la compréhension pour réussir dans leurs études. Dans le cantique des cantiques, dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech dit, il fait allusion à la Torah en disant « Ishakeni mineshikot piu » Il me baise avec les baisers de sa bouche. Kitovim dodecha miyain, car tout son amour est meilleur que le vin. Le vin fait allusion à tous les plaisirs de ce monde. La Torah et les plaisirs qu'elle suscite sont bien plus agréables. Elles sont comparées aux baisers de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Michelet, il est dit, Ki Hashem iten chokhma, mipiv da'at udvona, car c'est l'Éternel qui donne le savoir et de sa bouche l'intelligence et le discernement. En s'appliquant à lire à haute voix, il y a une obligation de lire le texte, de lire correctement. Pendant l'étude, après, il faut analyser le texte. Le discernement, essayer de comprendre, à discerner les choses. L'homme multipliera le savoir et la compréhension. D'abord, lire à haute voix, relire, essayer de comprendre correctement, essayer de trouver les questions et se donner les moyens de pénétrer la profondeur du texte. Il est recommandé de lire les textes étudiés à haute voix en chantant, comme dit la Gemara dans Megillah, au sujet de quiconque lit la Torah sans utiliser un ton agréable, c'est-à-dire les ta'amim traditionnels de la cantillation, ou qui récite la Mishnah sans chanter. Le verset dit, et moi aussi je leur ai donné des décrets qui ne sont pas bons. Ça veut dire que si on n'y met pas de l'enthousiasme, de la ferveur, et on chante en étudiant, alors ça veut dire que cette étude-là n'est pas agréable, n'est pas bonne. Le savoir ne sera maîtrisé et totalement su que si Hachem donne son aide. Comme il est dit, « Mipiv da'at udvuna », la connaissance vient de la bouche de l'Éternel. Pour cela, l'étudiant doit montrer l'amour qu'il éprouve pour la connaissance, le désir de comprendre, l'ambition, la volonté d'arriver à pénétrer l'étude. Et le savoir. Le savoir ainsi maîtrisé sera mis à la portée des élèves. Donc le maître qui arrive à posséder le savoir doit arriver... Sa volonté doit être de transmettre son savoir et de le mettre à la portée de ses disciples. De la bouche de celui qui étudie sortent les paroles qui proviennent de la bouche d'Hachem. Quand Moshe Rabbeinu enseignait la Torah à Israël, en vérité, c'est la Shekhina qui parlait dans sa bouche. Torah Lishma. Nous devons étudier Lishma, les Shem Mitzvah, les Shem à Torah. L'étude, certes, doit nous être agréable, comme la dégustation d'un mets raffiné et délicat. De par leur nature, les hommes ont besoin de se nourrir. Ils choisissent pour cela des aliments et des mets qu'ils auront plaisir à savourer. Il ne viendrait à l'idée de personne de s'acquitter de l'obligation de manger en consommant des nourritures exécrables ou déplaisantes. Au contraire, les hommes ont transformé le besoin et la nécessité de se nourrir en plaisir et délectation. De même, la halakha définit l'action de manger par le plaisir du palais ou le plaisir du ventre. Que signifie manger? Anat grono, le plaisir que l'on a à avaler les choses, ou le plaisir qu'on a à les avoir dans l'estomac. Anat me'av. Cela est aussi valable pour les mitzvot que l'on accomplit en mangeant, comme la matzah ou les repas de Shabbat. Il ne faut pas que cela nous répugne, sinon cela est invalide. Cette mitzvah-là sera invalide. D'ailleurs, la Torah acquitte celui qui consomme un aliment interdit qui n'est pas agréable à la consommation, qui s'est dégradé et qui n'est plus consommable. La réussite d'une préparation culinaire dépend énormément de l'amour et de l'envie de celui qui en cuisine. Pour qu'un plat soit agréable au consommateur, le chef doit y mettre toute son ardeur et toute son cœur. Il en va de même pour la nourriture spirituelle de notre âme. Elle doit être à l'image des plaisirs de la table. Étudions avec ardeur et amour, avec passion et dévouement, pour y trouver le plaisir et la délectation. Il est dit « Ta'amu uru kitov Hashem ». Goûtez et vous verrez combien est bon l'Éternel. Goûtez s'entend ici dans le sens de rechercher la raison et la compréhension des choses. Le mot « goût »« ta'am » a le sens de raison, comme l'Agmara souvent demande. « Maï ta'am » quelle est la raison de cette chose? La satisfaction intellectuelle donne un bon goût en bouche. Ce plaisir est plus grand que celui de savourer un aliment délicieux. Comme dit le Hassid Lutzato dans Messilat Yesharim, ce plaisir culinaire ne dure que le temps d'avaler l'aliment. Ici, nous demandons que le goût agréable de la Torah reste en bouche, qu'il dure, qu'il ne disparaisse pas immédiatement. Quand nous lisons les paroles de Torah, si elles sont agréables à notre bouche, elles le seront aussi pour ceux qui nous entendent. Le Midrash Rabbah dit, celui qui dit des paroles de Torah qui ne sont ni plaisantes ni agréables à ceux qui les écoutent, comme la mariée est désirée par son époux, aurait mieux fait de s'abstenir. Les divrei Torah, nous devons les dire uniquement pour qu'ils soient agréables pour ceux qui les entendent. Il ne faut surtout pas croire qu'une étude qui procure du plaisir n'est pas une étude désintéressée. Bien au contraire, le Hadmour de Sokhotchov dans Igleta dit, dans son introduction, il réfute cette idée en disant que l'essentiel de l'étude est d'être joyeux, heureux et de se délecter du plaisir d'étudier et de comprendre. C'est une jouissance et un délice que la Torah se dissout en nous-mêmes. Elle fait alors corps avec nous. Et le Chacham atteint les plus hauts niveaux, en se fondant dans la Torah et dans sa sainteté. Souvent, les Gdolim disent, il y a des enseignements et des traditions chez les grands de toutes les générations, qu'avant de prendre une décision difficile, alors les grands Rabbanim se plongeaient dans l'étude. Il s'oubliait, il s'immergeait dans l'étude totale, complète pendant plusieurs heures. Et au bout de plusieurs heures d'étude, il s'arrêtait et se posait la question. Et la première idée qui leur venait, et il tranchait ainsi les questions les plus épineuses. Parce que quand ils étaient immergés dans l'étude, leur cerveau, il s'adonnait totalement, il s'abandonnait dans l'étude, alors il faisait un avec la Torah, et l'idée, quand la question se posait à ce moment-là, il savait que la réponse venait de la Torah elle-même. Il faisait un avec la volonté d'Hachem et la Torah, la volonté d'Hachem qui est inclue, tout entièrement immergée dans la Torah. De même, Rabbi Haïm de Volodine, dans son ouvrage Nefesh HaHayim, au dernier portique 4, chapitre 3, définit la notion de l'Ishma. Étudier pour la Torah, pour son honneur et sa valeur, c'est-à-dire la connaître, la comprendre dans les moindres détails, montrer qu'il n'y a rien de superflu en elle, que chacune des paroles des sages qui sont rapportées dans le Talmud ou dans les Midrashim sont profondes et vraies.
Nous avons les incompréhensions. Alors nous posons, la première démarche est de poser des questions. Comment nos maîtres disent une telle chose? Pourquoi la Torah dit telle autre chose? Quelle intelligence il y a? Ça ne me paraît pas normal. Posez les questions, posez les problèmes. Et après, se casser la tête pour trouver des solutions. C'est donner la valeur aux choses. C'est tout cela glorifier et considérer la Torah. La Gemara dit, à la mort de Rabbi Akiva, l'honneur de la Torah a disparu. Rachid dit, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva a s'appliqué et a expliqué chaque détail de la Torah, chaque lettre, il n'y a pas de lettre superflue. Il expliquait chaque pointe qui était sur les lettres. Il voulait montrer à travers cela que chaque chose, chaque petit détail de la Torah avait son importance et rien n'y était superflu. C'est ça l'honneur de la Torah. Nous disons dans la bracha, nous continuons. Ubufiot ve'arev na Hashem lo edivrei Torah trabufinu. Et après nous disons ubufiot amecha bet Israël, que cette étude là soit agréable à notre bouche, mais aussi dans la bouche de ton peuple Israël. Pourquoi prie-t-on aussi pour les autres? La Torah doit être étudiée collectivement. Elle est tellement vaste qu'aucun homme ne peut arriver à en avoir toute la maîtrise. Il est donc absolument nécessaire que le plus grand nombre s'y adonne. C'est en confrontant les idées que la vérité se dévoile et que la lumière apparaît. Chacun a besoin de l'autre pour améliorer sa compréhension. L'érudit de son compagnon d'études, l'élève de son maître et le maître de son disciple, comme disent les sages, de mes élèves plus que tous. Heureux le maître qui a un élève suffisamment aguerri et vif d'esprit qui le pousse dans ses retranchements et lui permet lui-même d'améliorer sa compréhension. La Torah est la source des âmes d'Israël. Chacun en possède sa part. Elle lie les individus entre eux comme le parchemin relie les lettres pour en faire des mots. Les mots pour en faire des versets. Les versets pour en faire des parachutes et les parachutes pour en faire un rouleau, le Sefer Torah. Ainsi, en étudiant, des myriades de juifs se lient et s'attachent à leur source pour ne faire qu'un avec la Torah. Chacun dévoile alors une infime partie de cette immensité, et par le concours de tous et la conjugaison de leurs efforts, la Torah s'épanouit dans toute sa splendeur. La perte de temps. Ceux qui ne s'adonnent pas à l'étude, ou qui ne s'adonnent pas avec assiduité, qui ne mettent pas toute leur capacité à l'étude, et qui n'approfondissent pas, qui se donnent pas qui le font avec relâchement, est appelé bitul Torah, annulation de la Torah. Le manque est donc chez l'homme qui ne remplit pas son rôle. Cela est évident. Et alors pourquoi appelle-t-on ça bitul Torah? Pourquoi? C'est comme si que la Torah serait affectée par le manque d'importance ou le manque d'effort que les hommes mettent à l'étude. Celui qui l'étudie pas, c'est lui qui fait bitul Torah. C'est lui qui a un bâtin. Pourquoi appelle-t-on ça bitul Torah? C'est une erreur de dire ça. Tout celui qui ne s'adonne pas à la Torah altère la Torah, ne permet pas à la Torah de se développer, ne permet pas à la Torah de s'amplifier. Le chidouche que lui-même aurait dû dévoiler, il sera enfoui, il n'apparaîtra pas. Et si le chidouche de l'un reste enfoui, il cause un tort à l'autre. Un autre étudiant ne pourra pas en jouir. Et souvent, l'un utilise le chidouche inventé par l'autre pour répondre lui-même à ses propres interrogations. Parce que les choses sont toutes liées les unes avec les autres. On raconte que Maran Abet Yosef a étudié énormément, avait une très grande question sur le Rambam et a passé des jours et des jours pour essayer d'expliquer une difficulté. Et en fin de compte, il a réussi à l'expliquer. Le matin, il arrive à la synagogue et il entend deux jeunes étudiants qui discutent de Torah. Il tend l'oreille et entend l'un poser la question et l'autre immédiatement lui rétorquer la réponse. Et il s'est senti pas bien. Il dit, moi, j'ai dû passer des jours et des jours pour répondre à cette question. Et voilà que ces deux garçons-là, en un instant, il y en a un qui pose la question et l'autre qui donne la réponse. Maran Abed Yosef avait un mentor et il avait un ange qui se dévoilait à lui. Et quand il a vu, l'ange lui apparaissait tous les vendredis soirs, toutes les nuits de Shabbat. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, les deux élèves que tu as vus, qui ont posé la question, qui ont donné la réponse de manière immédiate, ils l'ont fait parce que c'est toi qui as fait descendre le chidouche sur terre. À partir du moment où le chidouche est descendu par tes efforts, par ton assiduité, par tout ce que tu as fait pour faire descendre ce chidouche-là, à partir de ce moment-là, le chidouche est descendu sur terre et il est à la portée de tout le monde, de chacun. Nous continuons les gens, venir à Nahnou, que nous soyons nous, notre descendance, et la descendance de notre descendance, et la descendance de tout ton peuple Israël, que nous soyons tous connaissant ton nom, et que nous soyons de ceux qui étudient la Torah de manière, pour elle-même, l'Ishma, de manière désintéressée. Ici, il y a une kavana à avoir, pour soi-même et pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour sa descendance, que toute notre descendance soit des gens érudits, qui fassent partie des érudits, qui soient des craignants de Dieu. C'est à cet instant-là qu'il faut avoir cette kavana. Que signifie connaître ton nom? Dans la vision du buisson ardent, Moshe demande à Hachem, s'il me demande ton nom, que dois-je leur répondre? Le Rambam explique que Moshe demande le nom de Dieu, qui démontre la réalité de l'existence du Créateur et de son implication dans les moindres détails de la vie. Comment on sait que Dieu est là, que chaque détail de notre vie est la Hashgaha Pratit? Et Hachem de lui répondre, ils n'ont aucun besoin de savoir mon nom, il leur suffit de savoir que je les accompagne dans tout le temps. Dans chacune de leurs peines, je suis présent. Ils m'implorent et je leur répondrai. Cela sera la preuve irréfutable qu'il y a un Dieu en Israël. C'est-à-dire, ça c'est le Ramban qui dit sur Exode 3, 13, celui qui s'adonne à l'étude baigne dans un océan d'éternité. Il sait que Hachem est là, présent à chaque instant, il qui l'accompagne. Il n'y a plus rien à prouver. Prouve-moi que Dieu existe, mais j'ai pas besoin de prouver. Dieu est là, c'est une réalité et largement suffisante. À ce propos, Chachamim disent, Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël ne font qu'un. Le chassid du Sado dans son livre, La Voix de Dieu, dit au sujet de l'étude que le flux de bonté le plus important qui émane du Créateur se lie à la Torah et à ceux qui s'y adonnent. Ce flux se répand dans toute la création pour la faire ressembler à la perfection du Créateur. Les Shem Hashem, pour atteindre ça, il faut étudier les Shem Hashem. Baruch Ata Hashem, Melamed Torah l'Amo Israël. Béni sois-tu, source de bénédiction, Hachem, qui enseigne la Torah à son peuple, à Israël son peuple. Le devoir de l'homme est de faire des efforts nécessaires pour comprendre la Torah. Mais c'est Hachem qui donne le savoir. Tu donnes le savoir, comme dit Daniel, Yahiv Chochmata la Hakimin. Tu donnes le savoir aux Chachamim. Ceux qui étudient produisent leurs efforts et font preuve de persévérance. Mais le savoir et la maîtrise, ainsi que la connaissance sont un don de Dieu. Le verbe enseigner est conjugué au présent pour nous préciser que chaque jour Hachem nous enseigne la Torah qui correspond à chaque homme et que chacun reçoit sa part. Asher bahar banu mikol ha'amim venatana Torato. Il nous a choisi uniquement dans cette intention. Nous n'existons que pour cela. Baruch ata Hachem noten la Torah, c'est la Torah orale. Cette bracha-là correspond à la Torah orale. Elle est la particularité d'Israël. Il est à remarquer que les nations se sont appropriées la Torah écrite, mais qu'ils n'ont aucune part dans la compréhension de la Torah orale. Elle est pour elles illogique et incompréhensible. Dans le cours de l'histoire, elles ont souvent, ces nations-là, cherché à détruire en brûlant les livres du Talmud ou en les censurant. De plus, il est à noter, à l'époque du développement de la Torah orale, à la période des couples, les Zougot, comme dans le premier chapitre de Perkei Avot, certains ont contesté l'authenticité de la transmission orale et l'ont rejeté. Les sectes qui ont été la conséquence de cela ont donné naissance à une nouvelle croyance qui a dénaturé la Torah et les mitzvot. Cette secte engendra plus tard une autre croyance qui elle aussi rejetterait la transmission orale. C'est à leur propos que les sages à l'époque de Rabban Gamliel institueront la bénédiction des hérétiques dans la Amida.
La malchinim vena minimalti tikba. Le Talmud précise que l'alliance particulière qui lie Israël à Hachem a été contractée par la Torah orale uniquement, comme il est dit dans Gittin, Samer Amud Bet. Nous avons l'habitude de conclure cette bénédiction en tout de suite en disant la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Car la bénédiction des Kohanim doit amener à cette étude-là, l'étude de la Torah de cette manière-là, amène les biens matériels, c'est la première bracha de Birkat Kohanim, la réussite dans l'étude de la Torah, et la prière. Nous avons besoin de la prière pour comprendre la Torah. Quand nous ne comprenons pas la Torah, il est nécessaire de prier pour qu'Hachem nous illumine et nous ouvre le cœur et l'esprit pour comprendre sa Torah. Les biens matériels sont absolument nécessaires. Nous désirons les biens matériels, non pas pour les biens matériels, mais pour être suffisamment tranquilles pour pouvoir nous adonner entièrement à l'étude et au service d'Hachem. Il y a raison que cette bénédiction-là se réalise, que nous sachions nous investir dans l'étude comme il se doit, et que nous soyons bénis de la birka des Kohanim, comme il est dit à la fin, et Vesamu et Chemi al Bene Israël, va ani abachem, ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël, et moi-même je les bénirai. Nous avons dit son nom, c'est la Torah. Que nous avons demandé à Hachem précédemment que nous connaissions son nom. Et son nom, c'est quoi? C'est l'ensemble de la Torah et l'étude de la Torah. La Torah n'est fait que des noms de Hakadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.